voudrais d'abord regarder un petit peu mon parcours qui vous expliquera davantage effectivement par quel angle j'aborde les thématiques de ce séminaire. Donc moi je suis géographe, pas directement a priori spécialiste de l'aménagement, même si j'ai fait en fait un cursus double, mais j'ai démarré au départ, enfin, une thèse en 1990, que j'ai soutenue en 1997 dans le cadre de la fondation d'entreprise Procure and Global France pour le littoral, qui est une fondation d'entreprise qui travaille en coordination avec le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, auquel j'étais à l'époque intégrée, pour poser la question non seulement de l'action régalienne de l'État en matière de protection des écosystèmes littoraux, mais aussi pour faire face à ce qui semblait de plus en plus évident, c'est-à-dire le transfert d'une partie de la croissance urbaine sur les bandes littorales françaises, et donc le début d'une problématique qui n'a cessé de se renforcer sur les conflits liés aux arbitrages entre protection des écosystèmes, valorisation de ces derniers et possibilité de gestion intégrée des territoires côtiers qui sont confrontés à l'activité résidentielle et aussi à la fréquentation saisonnière, la fréquentation touristique et de loisirs. Par la suite, effectivement, je suis devenue maître de conférence à Marne-la-Vallée et j'ai souhaité élargir géographiquement mon approche en regardant autour de la France à une échelle plus globale, l'échelle euro-méditerranéenne, et je vais vous expliquer pourquoi, comment pouvaient se poser ces problématiques d'articulation entre l'habité au sens large, les évolutions de la mobilité et le devenir de ces types d'espaces. Alors deux grandes opérations ont rythmé un petit peu mon parcours. En 1998, il y a eu une exposition universelle sur les océans à Lisbonne. Et ça a été un support, un prétexte, parce que j'avais déjà eu cette envie de partir vers le sud de l'Europe, qui est quand même un foyer touristique majeur, et de réfléchir à cette articulation vie-réalité sur le littoral. 98, Lisbonne, les océans. 2008, Saragosse, l'eau et le développement durable. Qui est d'ailleurs aussi donné lieu à une grosse opération d'aménagement urbain à Saragosse même, sur les bords de l'Èbre, mais toujours interrogeant cette problématique urbanistique, cette problématique d'utilisation des ressources naturelles et de littoralisation. Voilà, ça a débouché sur une HDR qui a été soutenue en 2005. Donc, un petit peu à la manière...
Accessoirement, si je puis me permettre, tu as passé un petit peu de temps à la DIACT aussi.
J'ai passé du temps à la DIACT, j'ai eu des responsabilités électives, j'ai été assistant parlementaire, j'ai fait différentes choses.
Tu étais aussi à la DATA, comme moi, mais c'était un peu avant.
Voilà. Ce qui me paraît effectivement intéressant, c'est qu'il y a des parallélismes entre ce que vient de nous dire Marie-Hélène, qui nous montre bien qu'il y a une interaction, je la cite, entre la production de la ville et la production de la mobilité, et... moi, ce que j'ai envie de vous démontrer, c'est qu'il y a une interaction aussi entre la production de l'espace touristique et la production de la mobilité touristique. Donc, c'est une sorte de déclinaison. Quand on regarde un petit peu, d'abord, le cadrage de ce séminaire. Si j'ai bien compris, la thématique générale de ce séminaire, c'est l'avenir de la mobilité des personnes et la question des infrastructures dans le contexte de la crise économique et du renforcement des contraintes climatiques. Donc, on est bien à l'articulation de trois champs. Et c'est ces trois champs-là dont nous venons de parler, que moi je vais décliner sur le plan touristique. Le premier champ, c'est le changement observé dans le domaine des mobilités, en tant que stratégie socio-spatiale. Le deuxième champ, c'est l'évolution des infrastructures, dans leur modalité de financement, dans le montage institutionnel, effectivement dans les réflexions sur la soutenabilité de ces infrastructures. Donc on va ne plus parler d'infrastructures pures, mais parler d'infrastructures au service du public. Et puis, le champ de la réforme des politiques territoriales, de la modification des politiques publiques. Transport, territoire, aménagement, urbanisme, développement économique. Alors, ces trois champs, vus maintenant dans l'optique de la grande sphère du tourisme et des loisirs. Il y a là aussi un avenir qui est fait de changements, d'incertitudes, de bifurcations. Parce que la mobilité touristique... elle est en croissance, je vous donnais quelques chiffres tout à l'heure, mais elle est aussi en évolution rapide depuis une dizaine d'années. Elle semble muter, elle semble changer de système, de structure, et elle est de plus en plus volatile et mutante. Les modes de production et de mise en marché des produits touristiques sont plus les mêmes également. C'est-à-dire qu'il y a des modifications dans la composante transport, puisque un produit touristique a forcément un segment déplacement, transport, mais la manière de se loger, la manière de jouir des paysages, la manière de pratiquer des activités physiques et sportives, je ne développerai pas tous ces aspects, mais ils changent avec. Quand on change la mobilité, on change aussi d'autres éléments du produit touristique, et là, il y a quelque chose de systémique, qui est l'articulation. Et puis, du point de vue des territoires aussi, vu qu'il y a ces changements au niveau de la demande, vu qu'il y a ces changements au niveau de l'offre, de ce qu'on appelle, le tourisme, il y a de nouvelles stratégies et politiques d'attractivité, une recherche d'excellence territoriale qui révèle une concurrence accrue entre les territoires pour faire face à cette crise conjoncturelle et à cette crise conjoncturelle de 2008-2009. Il y a eu une chute de fréquentation par des pays du monde, mais aussi cette crise systémique et structurelle beaucoup plus profonde dont je vais vous parler. Alors, avant d'aborder le cas espagnol, je voudrais d'abord le recadrer au niveau un petit peu mondial. En 2008, puisque c'est la dernière année, évidemment, qui a pu donner lieu à des sorties statistiques harmonisées à l'échelle internationale, nous sommes arrivés à 927 millions d'arrivées de touristes internationaux dans les pays touristiques mondiaux, c'est-à-dire que 927 millions de personnes ont effectué un déplacement de plus de 3 nuitées à l'extérieur de leur pays et de moins de 3 mois pour un motif d'agrément, d'affaires, de santé, d'éducation, car la définition des motifs de la fréquentation touristique posée par l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une branche de l'ONU et qui est située à Madrid d'ailleurs, est une ouverture très large des motifs de fréquentation touristique. 927, ou presque bientôt 1 milliard d'arrivées touristiques internationales, c'est effectivement une croissance accentuée, puisque, pour vous donner un exemple, au milieu des années 70, on était à la moitié, on était à 420 millions d'arrivées touristiques internationales, et au début des années 1990, on était à environ 620 millions. D'arrivées, donc voilà, on arrive à 920 millions d'arrivées, un terrien sur 6 finalement participe à cette mobilité touristique internationale qui est aussi l'une des facettes de la mondialisation. Dans cette grande géographie des flux, il y a une structuration très forte, très prégnante. Et il n'y a pas un grand magma où tout le monde va partout et on ne comprendrait pas l'organisation des flux. Bien au contraire, il y a une hiérarchie extrêmement pesante. Les échanges entre les pays du nord de l'Europe, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe développée, entre eux et avec le pourtour du bassin méditerranéen, rassemblent à eux seuls, bassin euro-méditerranéen, 430 millions de déplacements touristiques sur ces 927 millions. C'est le premier bassin, j'utilise le bassin avec des guillemets, c'est plus que les pays de la Méditerranée, c'est un espace euro-méditerranéen structuré autour de ce lac de vacances qu'est la Méditerranée, qui est le plus ancien, le plus structuré, le plus diversifié, et que les experts donc de l'OMT vont qualifier de mature, le terme de mature que j'ai utilisé pour le titre, parce qu'il a fini sa croissance exponentielle des années 60, 70, 1980, et qu'aujourd'hui, il connaît une croissance beaucoup plus faible de l'augmentation des déplacements internationaux, voire des reculs marqués, scandés par différentes crises, quand il y a augmentation du prix du pétrole, quand il y a 11 septembre, quand il y a crash boursier, quand il y a l'explosion de la bulle immobilière, comme il y a 2 ans, effectivement, ce bassin mature est tout de suite caractérisé par des ralentissements de la croissance, voire des débuts de recul de la croissance des déplacements internationaux. Au contraire, d'autres bassins dans le monde qui se sont structurés après jouissent d'une croissance beaucoup plus importante et caractérisent la croissance du tourisme international. C'est d'une part le bassin américain qui fonctionne aussi autour d'un lac de vacances, la Caraïbe, et qui structure un espace au nord, marché émetteur Canada-États-Unis, et un espace récepteur autour de la Caraïbe, des États d'Amérique centrale et du cône sud, et qui caractérise à peu près 70 millions d'arrivées touristiques internationales. Mais ce n'est pas le bassin le plus dynamique. Le bassin le plus dynamique, le bassin émergent et aujourd'hui, mais qui avait déjà des points forts, mais qui nous fait une croissance touristique à deux chiffres, c'est le bassin Asie-Pacifique, bien évidemment. S'il avait des points forts, c'est parce que la Thaïlande ou Bali ou l'Australie ne sont pas des destinations qui sont apparues hier, mais des destinations qui sont déjà elles-mêmes matures, dans un bassin qui, par contre, ne cesse de connaître une croissance excessive, très rapide, notamment sur la base effectivement d'un marché émetteur qui est la Chine, et récepteur qui s'est hissé au troisième rang mondial il y a 3 ans. Donc si la France et l'Espagne restaient deux premiers pays récepteurs touristiques mondiaux, avec respectivement 72 et 57 millions d'arrivées, la Chine est maintenant déjà le troisième pays récepteur touristique mondial, et elle animera forcément avec d'autres puissances. Le Japon n'est pas à diriger non plus, d'autres États, un bassin touristique d'une vigueur de développement exceptionnelle. Voilà, et je termine juste en disant qu'il y a un quatrième bassin, on ne sait pas si on peut l'appeler bassin, mais en tout cas un quatrième espace, lui aussi émergent, qui intéresse beaucoup les experts du tourisme en ce moment, c'est le bassin autour du golfe Persique, qui développe aussi effectivement une accessibilité croissante du fait d'un grand nombre de hubs aéroportuaires, je pense à Dubaï, qui structure une offre hôtelière, balnéaire, golfique, de resort, et qui commence à apparaître dans des statistiques au niveau même mondial. Voilà. Même si aujourd'hui, il n'y a pas plus de 20 millions d'arrivées, on voit qu'il y a là quelque chose de très vigoureux. Alors, ce qui est intéressant, je reste sur l'espace euro-méditerranéen. C'est, comme je vous le disais, que c'est le deuxième récepteur touristique mondial, mais que c'est le premier pays en termes de recettes touristiques, c'est-à-dire qu'avec moins de touristes, ils gagnent plus d'argent que nous en France, pour un certain nombre de raisons, que c'est une destination parmi les plus matures du monde méditerranéen, puisqu'il y a des territoires qui se sont construits autour du tourisme depuis 50 ans. 40 ans, 50 ans, et qu'aujourd'hui vivent une phase de conversion, de transformation, et donc s'adaptent au nouveau système dont je vais vous parler, qui est articulé autour de nouvelles mobilités, mais que ceci fonctionne en parallèle avec toute une dynamique territoriale, économique, politique, qui me semble intéressante. Il y a d'immenses projets d'infrastructure, vous le savez, au niveau de la grande vitesse ferroviaire et de la connexion au reste de l'espace ferroviaire européen. Il y a des grands projets d'infrastructure dans le domaine aéroportuaire, puisque l'agrandissement progressif des aéroports les plus importants, comme Madrid et Barcelone, et puis d'aéroports secondaires qui maillent l'ensemble du territoire, joue bien sûr un rôle dans la transformation de ces mobilités touristiques, du moins ce que je vais essayer de vous montrer, et que autour, à travers, à côté de cette dynamique de transformation des infrastructures, c'est qu'en fait il y a ce que les Espagnols appellent eux-mêmes le tsunami urbanisateur, c'est-à-dire une espèce de mouvement qu'on ne pouvait freiner, qu'ils croyaient incontrôlable, de croissance de la dynamique de construction, d'aménagement du territoire, donc infrastructures, immobilier, services, aménagement, émergence de territoires nouveaux, qui, bien sûr, s'est effondré il y a 18 mois, mais qui s'effondrant et laissant un marché, entre autres, d'environ 1,2 million de logements vides, crée un appel d'air absolument incroyable, justement, pour faire remplir ces logements par aussi des touristes. Voilà. Et donc, il y a des opérateurs en France, Pierre et Vacances Center Park, pour ne pas les nommer, qui ont actuellement une cinquantaine de projets parce qu'ils recueillent, ils ramassent 50 villages de vacances. Ce n'est pas des villages de vacances, c'est des immeubles et des espaces construits, aménagés, clés en main, prêts à être utilisés et qui sont décotés de 40%, ce qui est donc effectivement une excellente affaire pour repenser le modèle touristique et repartir dans les 10 ans à venir avec un patrimoine renouvelé.
Pardonne-moi, mais c'est donc des espaces qui n'ont pas été conçus comme touristiques.
Pas du tout. réflexion en fait sur des publications assez récentes du mois de septembre dernier. J'ai sorti un atlas aux éditions Autrement en collaboration avec une cartographe qui travaille au monde diplomatique, à Ulysse, à Géo. Et j'ai également coordonné un page de publication collective sur les métamorphoses d'une puissance européenne, puisque l'Espagne sera aussi accessoirement occupera la présidence tournante de l'Union au deuxième semestre 2010 et a envie de travailler bien sûr avec un agenda sur le développement économique et l'emploi et de reposer la question du rôle de la construction dans le modèle de développement économique à différentes échelles, échelles micro. Bien. Donc, j'ai essayé de structurer cette intervention en vous disant qu'il y a une interaction entre la production de l'espace touristique et la production de la mobilité touristique. Et j'étais en train de vous dire qu'il y a des destinations qui sont anciennes, par exemple comme l'Espagne, qui s'inscrivent dans des bassins où les flux sont connus, on connaît leur quantité, leur direction, et quand même, il y a des modifications en termes de mobilité, parce qu'il y a peut-être des modifications en termes d'objets même, de motivation même des touristes. Je parle de la demande et je me demande, en réfléchissant à l'intérêt d'aborder le champ du tourisme et du loisir pour comprendre l'avenir de la mobilité, je me place d'abord dans cette réflexion sur le changement structurel de cette activité. Voilà, comment on peut dire, Jean Viard parlait d'une révolution du tourisme et des loisirs dans la société occidentale. Et il s'inscrivait, alors moi je ne vous parlerai pas des 35 heures parce que c'est un débat qui a une dizaine d'années, mais il s'inscrivait en fait dans un courant de réflexion qui vient de Berkeley, hein, qui vient des universitaires californiens, du courant des critical studies, qui réfléchissent au rôle du loisir, du temps libre, du tourisme dans la construction sociale, dans la construction culturelle, et qui utilise Baudrillard, qui utilise Foucault, qui utilise Deleuze, qui utilise Derrida, alors à mon tout petit niveau, j'essaye de comprendre un petit peu ce qu'ils essayent de dire. Ils essayent de dire qu'on n'est plus dans un système, entre guillemets méchamment fordiste, dans lequel l'individu a un travail, c'est du domicile travail, au boulot dodo, hein, comme nous l'a dit Marie-Hélène, travaille comme un fou, et puis il a ses 3 semaines ou 4 semaines ou 5 semaines, ça dépend, peu importe, mais il est ailleurs, il fait autre chose, il arrête de travailler, il va à la plage, en Espagne par exemple. Ça, c'est ce que nous dit Baudrillard, ça, c'est un caractère, un élément caractéristique d'une époque qui a été l'époque de la modernité, dans laquelle on veut développer différentes caractéristiques de cette époque. Il y avait exode rural et croissance urbaine. Il y avait une base productive relativement industrielle. C'est bien pour ça qu'on a appelé ça une ère fordiste. Il y avait des structures politiques qui étaient organisées autour de l'État-nation, etc., etc. Et les classes sociales, d'ailleurs, n'avaient pas tout à fait les mêmes types de vacances, puisque à Majorque, c'était les ouvriers anglais. Sur la côte andalouse, c'était des stations un petit peu plus aisées. Et c'était d'autres types de formes urbaines, de formes spatiales, de mobilité, d'usage touristique. En fait, vous voyez, je ne parle même pas de la pré-modernité, mais quand je suis devant mes étudiants, je leur dis, imaginez un tableau de Bruegel où vous voyez des paysans danser devant un grand banquet. Ça, c'est la forme de scénario récréatif pré-moderne. Imaginez les ouvriers en costume, leur casquette sur la plage du Coney Island à New York en 1960 dans les grandes roues qui mangent des hot dogs et qui boivent de la bière et qui s'amusent dans des espaces de loisirs qui sont d'ailleurs des espaces balnéaires. Ça, c'est un peu le modèle de la modernité. Et puis, regardez aussi la nouvelle ère dans laquelle on est censé vivre. Cette nouvelle ère, alors, qui, sur le plan du monde dans lequel on fonctionne, c'est un espace métropolitain, une base productive tournée vers le tertiaire, un système dans lequel les grandes entreprises et les médias ont leur rôle, etc. etc., et dans lequel l'identité ne se fait plus forcément par la production, être ouvrier, être cadre, être employé, mais se fait aussi par des logiques de consommation. Dans ce cadre-là, eh bien, tout change, et la manière de se divertir, la manière de consommer du loisir, c'est donc plus à côté, j'allais dire le blanc et le noir, le yin et le yang, à côté du travail, mais c'est quelque chose qui s'est complètement dilué. Le travail a changé, le loisir a changé, et ces grands binômes qui structuraient la modernité, l'urbain, rural, travail, loisir, temps libre, temps de travail, tout ceci s'est fluidifié, flexibilisé, fondu, on le vit peut-être d'une nouvelle manière, et ceci a un rôle très important sur la transformation des consommations touristiques. Voilà. On entend ainsi d'abord, on remet, quand on parle de ça, et donc les critical studies parlent beaucoup du tourisme sous cet angle-là, discutent du rôle du loisir dans une nouvelle société technologique, médiatique, la société de la mobilité, la société de la technologie, des services. Et en réfléchissant sur cette thématique, on voit bien que le tourisme, on l'envisage d'abord comme une invention culturelle, sociale et spatiale, puisqu'il produit des lieux, qui est caractéristique de la société occidentale, ce qui fait que je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quel type d'espace touristique produira le bassin Asie-Pacifique, parce que je ne suis pas compétente. Et c'est aussi pour ça que j'ai préféré regarder de près mon bassin, dont je connais quand même un petit peu mieux le fonctionnement culturel. Le tourisme est donc facteur de construction d'espace, parce que aujourd'hui, les modalités d'appropriation, de transformation des lieux et des espaces sont marquées par cette place prépondérante du loisir et du tourisme dans la vie, à différentes échelles, à différentes vitesses. Et parce que, loin de vous faire une présentation où je vais vous dire « Ah, c'est super construit sur la côte espagnole », je vais vous faire une présentation en vous disant « Ah, cette transformation sociologique, culturelle, un petit peu multiforme, produit de l'innovation, produit des espaces, des lieux, des modes de vie qu'on n'a pas peut-être encore aujourd'hui la capacité de comprendre complètement, mais qui apporte de la nouveauté dans la manière dont on comprend cette activité. Et bien sûr, les moyens de transport, les réseaux d'infrastructures jouent un rôle fondamental pour comprendre ce qui est en train de basculer. Voilà. On pourrait après, justement, regarder des réseaux de transport. On pourrait regarder l'évolution des moyens de transport aérien. On pourrait regarder l'évolution des moyens de transport ferroviaire. On pourrait, à d'autres échelles, regarder l'articulation entre le système autoroutier, parce qu'il effectivement connaît un très fort développement, un maillage remarquable entre la France et l'Espagne. Et on pourrait aussi regarder quelque chose de beaucoup plus récent, qui est la conversion des principales villes espagnoles, mais même des villes moyennes, au nouveau pour eux moyen de transport collectif. C'est un pays où on inaugure un réseau de métro tous les 3 mois, Malaga, Séville cette année, Grenade, et des petits métros qui coûtent juste un demi-milliard chacun. Quand il ne s'agit pas de tramway, on adapte les Vélib partout en quelques mois. Enfin, il y a aussi une dynamique, c'est la dynamique des infrastructures, ça pousse, après il y a des compagnies et des grandes entreprises, et donc ma foi, les appels d'offres ont l'air de fonctionner plus rapidement. Et là, il y a une conversion aussi des espaces urbains qui va avoir des effets très forts sur l'attractivité métropolitaine. Bon, je pourrais quand même. J'ai fait des choix parce que je voulais pas tout traiter, et puis je ne connais pas tout à un même niveau de finesse. Et j'ai voulu vous expliquer, puisque je vais rester à l'échelle du tourisme international et de ses effets en termes de mobilité et d'espace sur différents types, différentes catégories d'espaces d'accueil en Espagne, je vais vous proposer une analyse sur le basculement, le transfert entre le système charter et le système low cost. Parce que tourisme charter, en tout cas tourisme monde fordiste, système de charter, libéralisation du transport aérien, vu dans les années 50 et 60, c'est-à-dire apparition de lignes non régulières, généralement inaccessibles au public, mais construites autour de la mise à disposition d'un tour opérateur qui achète tous les sièges et qui se charge de les remplir en faisant du package, c'est-à-dire en prenant des groupes, en constituant des groupes et en vendant ces packages aux particuliers, c'est la définition, grosso modo, de ce qu'est le trafic charter, qu'on connaît très mal, qui n'a pas disparu, mais qui est en train de, voilà, de connaître des évolutions systémiques du fait de cette modification culturelle dont j'essaie de vous parler, qu'on connaît très peu, qui représente 10 à 12% de l'offre aérienne mondiale, encore, aujourd'hui, et qui, bien entendu, est en train d'être grignoté, transformé, hybridé par des formes de bas coût qui ne correspondent pas tout à fait à la même chose. L'offre de charter, c'est vraiment typique de l'offre aérienne à destination, pour des destinations touristiques méditerranéennes qui ont fonctionné pendant 30 ans à côté de l'offre de lignes régulières et nationales, à côté des compagnies, je ne vais pas dire officielles, hein, elles le sont tout autant, et qui ont une importance capitale pour certains couples origine-destination. C'est un article de 2002, sur une enquête été 2002, qui regardait à partir du Danemark, la Belgique, le Luxembourg, les charters qui décollent de ces pays, où atterrissent-ils? Ils atterrissent tous globalement sur la rive nord du bassin méditerranéen, en Grèce, en Turquie, en Italie, mais surtout en Espagne, sur des points qu'on va connaître rapidement, Majorque, la Costa Brava et la Costa del Sol. On voit une grande homogénéité des destinations et on comprend bien qu'il y a là une structuration de l'offre aérienne qui est complètement motivée par le poids décisionnel de grands tours opérateurs. On peut penser à Thomas Cook, on peut penser à l'allemand TUI, qui sont des grandes entreprises qui ont intégré les différents segments d'un produit pour faire une offre très très calibrée de destinations balnéaires, méditerranéennes, sur un nombre très restreint de pays et de destinations. Voilà, 80% des Belges qui décollent et qui veulent aller en Turquie montent dans un charter. Donc on n'est plus sur 10% de l'offre, on est sur 80%, là c'est les Belges, hein, et 79% pour aller en Grèce, c'est un mode qui est quand même dominant. Donc on voit le rapport de force, on comprend que si ça fonctionne, si les clés d'un succès, c'est parce qu'il y a des économies d'échelle, et puis parce que tout, enfin, il y a le bas prix avant le bas prix, le low price, c'est-à-dire que c'est des appareils d'occasion, c'est des sièges passés dans l'avion, c'est des horaires à pas d'heure pour décoller et pour atterrir, c'est un moindre service à bord, c'est un personnel qui n'avait pas, qui fonctionnait pas comme dans les compagnies régulières, et puis il n'y avait pas de frais de commercialisation individuelle puisque tout fonctionnait par la logique du groupe. Et dans le système post-industriel, c'est l'individu qui choisit, c'est plus le groupe. Et évidemment, ça explique le caractère rapidement démodé de ce type d'offre de mobilité. Les effets spatiaux de cette mobilité très rigide, c'est une rigidité aussi spatiale. C'est-à-dire que le charter, il a produit ce que j'appelle des macro-stations. Il a été concentré sur quelques aéroports qui se sont spécialisés. Et juste à côté de l'aéroport, on a inventé de l'espace touristiquement, je dirais pauvre. Un grand nombre de lits, de très grands hôtels, sur un même lieu, pour, j'allais dire, après avoir rempli l'avion, on remplit l'hôtel. Avoir des ristournes importantes sur les prix unitaires, ça vous donne des espaces qui valent ça, c'est-à-dire un hôtel, la mer, point barre. En haut à gauche, c'est Monte Tarotta dans les années 70. Le niveau zéro de l'aménagement. Un peu après, ça se structure, il y a des arrêts de voitures en bas parce que bon, ça s'est un petit peu urbanisé autour, mais ça reste dans une logique, évidemment, de masse. Et c'est ce qui a donné lieu à l'appellation des destinations matures. C'est parce qu'elles étaient remplies, saturées, elles fonctionnaient sur le nombre, mais elles fonctionnaient sur le nombre parce que le type de mobilité, c'était le nombre. Depuis, effectivement, il s'est passé plein de choses. J'ai essayé de vous dire ces grandes tendances sociales qui se sont produites, et aussi, il y a eu des évolutions, dire, systémique dans le monde du transport aérien avec la libéralisation du ciel européen. Et donc, en fait, c'est un constructeur de charter comme Nouvelles Frontières qui a, j'allais dire, qui a déclenché, entre autres, cette révolution, parce que pour avoir le droit de faire des prix plus bas, Nouvelles Frontières, en fait, en 85, est allée à la Cour européenne de justice et a demandé le droit de passer des prix au niveau national. Ça a été l'un des déclencheurs de cette libéralisation progressive du ciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une abolition de la distinction a priori entre des compagnies régulières et non régulières. Toute compagnie d'un pays de l'UE exploite n'importe quel vol entre deux aéroports communautaires et peut même proposer des vols domestiques. Le Bakou, il a véritablement conquis les infrastructures aériennes espagnoles, conduisant effectivement à un certain nombre d'aéroports secondaires, comme Gérone, Reus, par exemple pour la Costa Brava, qui fonctionnent à quasiment 100% pour Gérone, avec du low cost. Mais au-dessus de 50%, vous avez 5 aéroports, Palma pour Major, Séville, Malaga, Reus et Gérone. Donc des aéroports qui fonctionnent vraiment en lien avec des espaces qui sont littoraux, qui sont balnéaires. Donc il y a quelque chose comme une substitution progressive du système de charter au système de low cost. Ici, c'est le total du trafic des passagers en low cost en 2005. Alors en 2005, c'était le début, le low cost en Espagne, il a explosé entre 2001 et 2005-2006. Donc on est un petit peu au milieu de cette grosse phase de croissance, mais il y avait des aéroports qui croissaient de trafic de 1600% par an. C'était vraiment une véritable bombe. Donc vous reconnaissez bien sûr Balaras à Madrid, qui est un hub international, donc je n'en parle pas ici, et qui a plus de 50 millions de passagers, et qui attire 25% des vols de l'Union européenne en direction de l'Amérique du Sud. Donc il y a une certaine spécialisation dans le ciel européen. Vous avez El Prat à Barcelone, qui en tant que tel a 30 millions de visiteurs, de passagers, et qui est de poids égal, par exemple, à Rome-Fiumicino. Donc, dans un pays, vous avez déjà deux infrastructures majeures, deux infrastructures de niveau national, ce qui vous reflète, bien sûr, la concurrence de deux métropoles qui ne se supportent pas, Madrid et Barcelone. Mais, à côté, vous avez une véritable floraison d'infrastructures aéroportuaires d'importance, quand même, qui font transiter des millions et des millions de passagers. On parlait tout à l'heure de Gérone, c'est plus d'un million de passagers qui utilisent le low cost, mais aussi on pourrait parler de Malaga, on pourrait parler d'Alicante, on peut parler de Valence, on peut parler de Benidorm et de Castellón. Il y a des choses qui pointent un petit peu au sud, on voit Séville, mais on voit aussi Cadix, on va bientôt voir apparaître encore Elva. Je ne parle pas des archipels, enfin si je devrais en parler, les Canaries ont évidemment du fait de leur insularité une infrastructure aéroportuaire où le low cost a une importance remarquable. Bref, ce florissement. La Galice aussi émerge, ainsi que le Pays Basque et la Corniche Cantabrique. Donc on se demande si on peut avoir un aéroport tous les 100 km dans ce beau pays et quel est le lien que cela entretient avec ma question des mobilités touristiques et ma question des dynamiques territoriales, immobilières et de la construction. Donc là, on oublie ça et on rentre dans un nouveau système territorial qui ne peut plus être celui-là parce que la logique de floraison des infrastructures aéroportuaires dont je vous parle n'est plus, ne nécessite pas d'avoir ce type de produit spatial, de produit urbain. Mais on fonctionne, on va construire un autre système. Alors avant de parler du nouveau système territorial, du nouveau système de mobilité touristique, quelques chiffres pour soutenir la carte du trafic passager que vous venez de voir tout de suite. L'Espagne, c'est le deuxième rang mondial en fréquentation des compagnies low cost. On a un peu oublié les Air Condor de Thomas Cook avec les centaines d'Allemands qui débarquaient à Palma. Un peu, mais pas tout à fait. Les deux modèles vont vivre et cohabiter en réalité. Donc, on est à 40% des arrivées touristiques en fait en Espagne sur le low cost, globalement, mais on est à quelquefois 50% sur les mois d'été et une spécialisation extraordinaire de certains aéroports. Voilà. Tout ceci, c'est assez cohérent avec la fin du modèle touristique fordiste, la segmentation et la bipolarisation du marché, d'un côté l'entretien de prix bas sur le transport et puis sur d'autres prestations touristiques. De l'autre côté, une vraie tendance à la montée en gamme et tourisme de low cost ne veut pas dire tourisme de prix bas sur l'hébergement ou sur les autres formes de déplacement ou sur les autres formes de consommation de loisirs. On reconnaît qu'il y a une nouvelle amélioration de l'accessibilité et de la desserte du territoire, qu'on passe du packaging à la liberté de composition du produit sur des offres qui deviennent de plus en plus thématisées, dans lesquelles les stratégies de marque, marque de territoire ou marque en termes de produits ont toute leur importance. Qui dit low cost dit nouvelles technologies, parce que qui dit low cost dit réservation internet. Donc là aussi, une mutation technologique fondamentale liée à de nouveaux systèmes de gestion de l'information. Et en fait, les transports intelligents, ils sont toute une déclinaison dans le domaine du tourisme et des loisirs, dont je n'ai pas le temps de parler ici, mais le GPS révolutionne aussi la manière de fréquenter l'espace touristique. Et enfin, bien entendu, un impact sur les destinations. Alors, cette fin du modèle touristique, c'est cohérent avec ces mutations de la demande que sont la compression, il y a compression du temps et des temporalités dans la vie. Dans la vie, travail, logement dont parle Marie-Hélène, il y a compression dans la manière de consommer le tourisme aussi, puisqu'il y a des séjours qui se raccourcissent, le locus va le permettre et le renforcer. Compression du temps, raccourcissement des séjours, désaisonnalisation dans le choix du calendrier de ces déplacements touristiques internationaux, toujours cette volonté de rupture avec la vie quotidienne, des désirs. De lieux qui sont assez contradictoires, on cherche du nouveau mais du familier, des lieux excitants, exotiques, mais beaucoup de sécurité. Ça, le charter aussi le fournissait, hein, mais autrement. On cherche beaucoup plus d'authenticité, de patrimoine, d'éthique, d'écologie. Le rôle des espaces naturels, je suis bien placée, avec le conservatoire du littoral, en tout cas j'étais bien placée pour voir que la qualité du milieu naturel est un élément très fort de l'environnement dans l'offre produit. Une sensibilité au risque, toute une dimension autour de la connectivité des communautés d'internautes. Donc voilà, comment vous dire les choses rapidement. Ce système de transport aérien renouvelé, de mobilité renouvelée, a fondamentalement changé le système migratoire au Méditerranéen. J'ai essayé de faire un petit schéma entre l'Espagne et l'Andalousie, entre l'Angleterre et l'Andalousie. J'ai mis les migrations de travail en rose et dans les années 60, les gens du sud de l'Europe partaient travailler dans les grandes métropoles, rien de. Et d'un autre côté, c'est une flèche assez fine. Et puis j'ai mis, au début des années 60, quelques premiers flux verts venant par exemple de l'Angleterre et arrivant en Andalousie, j'allais dire. Les autochtones faisaient des migrations de travail, les employés d'Europe du Nord-Ouest venaient en fréquentation touristique sur le littoral. Ce système s'est renforcé, mais on est passé ce système s'est renforcé numériquement. Dans les années 70, c'est là que les plus gros flux de migrants de travail du sud de l'Europe sont partis travailler dans les usines des métropoles du Nord-Ouest. Et il y a eu un gros flux vert, mais aussi un gros flux jaune, que j'ai appelé aussi des migrations de loisirs, tourisme et loisirs. Et puis, dans les années 90-2000...
Je n'ai pas bien compris de quoi relève le vert, à quoi correspond le vert et à quoi correspond le jaune.
Parce que c'est mal écrit. Donc, le vert, c'est des migrations, en fait, résidentielles. D'anglais qui sont venus avant même qu'il existe des grands hôtels et qui ont pris des villas, c'était en général des retraités du Commonwealth qui cherchaient à passer leur retraite. C'était des pré-touristes d'une certaine manière qui ont lancé les stations touristiques en faisant connaître en Angleterre un certain nombre de lieux.
C'est pour ça que sur la première carte en haut à gauche, tu as des fruits verts qui viennent d'un peu partout. En fait.
Oui, parce qu'en fait, ils venaient aussi d'Australie, ouais. Enfin, dans les enquêtes que j'ai faites, ils revenaient d'Afrique, qui se décolonisaient, et il y avait des Anglais un petit peu mondiaux, quoi. Enfin, voilà, internationaux, pas, venus d'horizons internationaux. Le système, après. Oui, la diaspora, tout à fait. Et ça a lancé, parce que bon, la Costa del Sol a été lancée en fait par un aristocrate, enfin, Arthur de Hohenlohe, qui était un nom imprononçable pour un Andalou, qui était en fait, qui avait choisi un lieu de villégiature. C'était la préhistoire du tourisme résidentiel, d'une certaine manière, avec le choix. La Côte d'Azur est aussi née comme ça à la fin du 19e siècle, avec des villas qu'on se faisait construire dans des zones qui étaient pas très accessibles, très rurales, très reculées. Voilà, on était avant même l'idée des charters. Dans les années 70, là, des migrations de loisirs, de classe moyenne anglaise, massive, donc j'ai élargi, c'est en haut à droite, ma flèche, et puis j'ai élargi aussi ma flèche de départ, migration professionnelle. En bas à gauche, j'ai vu ces migrations résidentielles toujours importantes, ces migrations de travail changer de sens et revenir, c'est le système des retornados, qui, avec un pécule ou avec une retraite quand ils ont fini de travailler dans une usine Citroën ou quand ils ont fini de travailler dans les métropoles du nord-ouest de l'Europe, reviennent s'installer dans leur pays et d'ailleurs montent une affaire, travaillent, construisent leur maison. On voit bien ce phénomène. Ils participent aussi à la dynamique de croissance démographique, à la dynamique de croissance économique du monde méditerranéen aujourd'hui. Je rappelle quand même que l'Espagne a gagné 10 millions d'habitants dans les 15 dernières années. Et il y a bien entendu une migration maghrébine, sud-américaine, mais il y a plus de 50% des migrants espagnols sont européens, Europe de l'Est et Angleterre. Et puis aujourd'hui, un système relativement brownien, où on a une attractivité touristique, une attractivité résidentielle, et ce système d'aller, de retour, puisqu'on est maintenant dans Schengen, dans l'Union Européenne, avec les Espagnols et d'ailleurs aussi les Portugais. Quand on demande à ceux qui sont sur les vols low cost qui ils sont, pourquoi ils viennent, quel est leur profil, on voit que le profil est assez différent de celui qui empruntait autrefois les charters. On voit que ces personnes qui utilisent le transport à bas coût sur des aéroports beaucoup plus dispersés sur le territoire espagnol sont des personnes qui viennent bien sûr en individuel et pas en groupe, qui viennent moins souvent en famille mais plus souvent à une ou deux personnes pour construire un voyage. On voit qu'ils ne prennent beaucoup moins que des touristes en charter, ils prennent beaucoup moins des formes d'hébergement payantes, mais qu'ils utilisent des formes d'hébergement qu'on appelle des lits privatifs dans le vocabulaire du tourisme, c'est-à-dire qu'ils vont habiter dans des maisons. Soit leurs parents, leurs oncles, leurs cousins, soit, bien sûr, la maison qu'ils auront achetée sur place. Voilà. C'est ça le tourisme résidentiel. On voit aussi que cette raison du low-cost aura permis, d'une part, le renforcement, l'augmentation de ce trafic, de cette consommation résidentielle sur le territoire des bords de mer méditerranéens, mais aussi que cela aura permis la croissance du marché touristique intérieur à chacune de ces destinations, c'est-à-dire que ce sera aussi le madrilène ou l'habitant de Bilbao ou l'habitant de Saint-Jacques-de-Compostelle qui viendra, dans le cadre de l'intérieur, utiliser, avoir la possibilité d'avoir sa maison au bord de la Méditerranée, une maison secondaire. Je vais un petit peu vite. Moins de consommation hôtelière, plus de tourisme résidentiel, moins de packaging, différents types d'activités touristiques. Et même si, lui, mon collègue était prof à l'Université d'Alicante qui s'appelle Francisco Vera, même si il n'y a pas de relation de cause à effet directe, mécanique, c'est pas ce que j'essaye de vous dire, entre ce déclin systémique du tourisme fordiste et l'émergence du low-cost, en fait, il y a une confluence de facteurs. Il nous faut changer de système. Et cette confluence de facteurs qui va permettre la spécialisation de certains secteurs de la côte espagnole dans l'offre résidentielle, le logos en est un élément fondamental. Mais pas de déterminisme technique. C'est pas seulement le réseau de transport qui va faire basculer tout cela. Ce qui va faire basculer, ça va être aussi la politique des territoires. Et là, le même Francisco Vera, il dit, ce qu'on voit, c'est que dans le temps, il y a eu un alignement entre des politiques de développement régional, des stratégies de compagnies aériennes, d'opérateurs privés, et des types de comportements touristiques. Voilà, ça c'est l'un des secteurs de la côte valencienne. Il y a un carton en haut à gauche pour que vous y retrouviez. Donc, on est globalement entre Valence et Almeria. Et même si, évidemment, j'ai tendance à vous dire que l'Espagne est une destination mature, il restait néanmoins, au début des années 2000, un secteur côtier entre la Costa Brava au nord et la Costa del Sol au sud qui était relativement moins aménagé. Parce qu'il n'avait pas d'aéroport, aujourd'hui il en a trois, il a Castellón, il a Valence et au sud il a Murcie qui boum. Il a une autoroute, c'est l'espèce de trait entre Cartagena et Aguilas, là, que vous voyez, qui est une autoroute toute neuve, bien plus près du littoral que l'autoroute des années 70, qui en fait était, j'allais dire, le piémont des montagnes de l'arrière-pays, et qui, évidemment, est un vecteur d'urbanisation d'autant plus important que les politiques ont voulu cela. Les politiques, elles sont en Espagne largement décidées à l'échelle de la communauté autonome, chacun le sait, et la communauté valencienne, dirigée par un certain Francisco Camps, a défini une loi, puisque c'est les communautés qui font les normes ou des lois foncières et urbanistiques, en disant quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle déclarait tout sol est déclaré urbanisable à moins que vous veniez me prouver le contraire. Ce n'est pas la logique. Il faut développer une procédure d'autorisation d'urbanisation. Il faut développer une procédure pour ne pas urbaniser, en fait. C'est un peu du négatif. Alors, ça fait l'objet de 4 rapports parlementaires à Bruxelles. Hein. 4 rapports parlementaires qui n'ont pas été des rapports écologistes disant on assassine les dernières zones humides ou les plages, mais qui ont été des rapports dans le domaine des droits de l'homme. On fout en l'air la propriété des vieux Anglais installés depuis les années 60, parce que la logique de M. Camps, c'était d'exploser ces villas-là, d'atteindre le droit de propriété, pour remplacer par le nouvel espace touristique dont je vais vous parler, évidemment, beaucoup plus lucratif. Donc, qu'on ne se méprenne pas hein, sur les mobiles, de les différents mobiles des enjeux hein, entre l'action et l'aménagement. Donc, on peut voir une flèche, enfin une espèce d'étoile qui s'appelle Cap Cop, là, ou un projet totalement délirant de 20 000 villas, de 50 hôtels, les éléments sont délirants. Moi, j'ai vu des golfs à 100 trous, donc c'est grand. Voilà, donc c'est une échelle qui n'est pas tout à fait celle qu'on a l'habitude d'envisager, mais qui montre bien effectivement l'articulation entre une dynamique d'urbanisation, une transformation sociale profonde des modes de comportement et de consommation touristique et une transformation aussi des types de mobilité et des infrastructures. Donc là, bon, c'est vieux d'ailleurs. Hein. On voit la part de l'urbanisation dans le premier kilomètre de linéaire côtier par province. On s'aperçoit que les provinces qui urbanisent le plus sont celles qui sont, Alicante et Malaga par exemple, sont celles qui sont, mais Valence n'est pas très loin aussi, sont celles qui sont effectivement dans cette logique de véritable transformation systémique et territoriale. Après, c'est des cartes que j'avais présentées. Mon golf à 100 trous, vous voyez, c'est entre autres, hein, c'est le bleu avec le vert clair et le vert foncé, là, avec les fairways. Les axes vierres, en marron, à la limite, c'est de lotissement californien. La route à l'arrière, qui concentre un certain nombre de services, donc ça va être des services éducatifs, ça va être des services sociaux, sanitaires, ça va être en fait un embryon, là, le pôle, enfin une espèce de, je dirais pas de centralité, ça se voit pas très bien, mais à l'ancien, c'est un pôle de service qui est à l'arrière-pays, à 8 km, 10 km du littoral, qui est complètement utilisé par cette nouvelle modalité d'urbanisation, dont le modèle, l'espèce d'idéal, de prototype, c'est la vallée fermée souligné par un trait d'eau central, c'est-à-dire un petit ruisseau réaménagé, puisque l'eau est fondamentale dans les modalités d'urbanisation de ce secteur. La mesure où le golfe consomme extraordinairement d'eau, mais les piscines aussi. Et donc, la logique d'urbanisation, c'est cette amende de villas regroupées dans une structure un petit peu de jardin et ourlées par ce boulevard circulaire qui, à la fois, la dessert et la ferme, quand bien même, les modalités, ce n'est pas du gated, c'est autre chose que du gated community, les modalités de fermeture ne passent pas, j'allais dire, à l'américaine, par de la fermeture, de la vigilance, c'est beaucoup plus. Comment dire, on s'en rend pas compte. Voilà, c'est fait pour qu'on ne s'en rende pas compte, puisque l'espace, il est censé accueillir. Il est censé être un espace touristique dans lequel on consomme toute une. Et on a envie de se déplacer. Bon. Voilà, bah, les transformations des modes d'habiter, c'est plus tout à fait mon hôtel sur la plage. Hein. C'est des petits centres qui réinventent un petit peu l'urbanité méditerranéenne, bourrés de fleurs, de sculptures. Et il y a toujours du sanitaire. Au premier étage, là, il y a des docteurs, évidemment par l'anglais. Et puis, et la villa elle-même, l'espace résidentiel, c'est cette hybridité dont parlent quand même bien les Américains à Berkeley. L'urbanité, c'est à la fois de la fête, du commerce, du loisir, qui a rempli toute la vie. Et puis, l'habiter, c'est à la fois du résidentiel et du jardin, du dedans et du dehors, parce que le climat permet ça. Et c'est quelque chose qui tourne autour d'une réinvention de la convivialité, d'une réinvention de la notion de luxe, d'une réinvention de la notion de nature, parce que c'est extrêmement géré du point de vue de l'eau douce. Et l'eau douce permet la nature, enfin c'est la nature, avec quelques techniciens et ingénieurs. Et puis, c'est un rapport à l'espace qui a bien changé. Donc, les gens, à droite, c'est le prototype du retraité, c'est M. Diorit, qui a sa villa, sa piscine, et c'est la plage là-bas derrière, c'est les dunes, un petit bout d'eau, des pins, un bout de golf, et qui jouit effectivement d'un nouveau mode de vie avec le low cost et avec la possibilité de rentrer voir effectivement des amis ou autres en Angleterre quand il a envie. Mais à gauche, c'est la famille Eagle, qui en fait est beaucoup moins, j'allais dire, élitiste que Joyce, parce que en fait, le père, il a eu un problème de rhumatisme articulaire aux mains. Il ne pouvait plus travailler, enfin, il ne pouvait plus travailler à 100% dans les Midlands en Angleterre, et ça a été un choix de vie que de se déplacer. Et les Anglais vont là où il y a des Anglais, ça s'entretient. Les Allemands, etc., les Américains, les autres nationalités, je passe. Et donc, moi, c'est un choix de vie d'installation dans un nouvel espace où là, en fait, bah, lui, c'est le jardinier d'autres. Voilà. Donc, une madame fait des ménages. Bon, mais c'est un choix aussi, et c'est donc une classe modeste, active, qui réinvente un modèle d'urbanisation et d'installation et d'organisation territoriale dans un nouveau lieu. Bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire de développer maintenant d'autres exemples avec, par exemple, la grande vitesse ferroviaire, parce que sinon, ça serait un peu long. Je simplement, pour venir vous montrer un programme d'AVE qui va quand même transformer fondamentalement l'accessibilité des grandes villes et l'accessibilité d'espaces secondaires, de villes secondaires, de métropoles secondaires en Espagne. Voilà, quand on regarde la carte de l'AVE et quand on regarde la carte de la fréquentation touristique voilà, des régions et des choses à dire, je n'ai pas le temps, et quand on regarde l'évolution du tourisme urbain, voilà, il y a des choses à dire en matière de match Madrid-Barcelone, puisqu'il y a aujourd'hui un TGV qui les relie et qui a fait tomber l'aéroport aérien, donc il y a un enjeu, mais il y a aussi une modification profonde des villes à une heure de Madrid, que sont par exemple Obed, Guadalajara, Salamanca, Villa, Valladolid, etc., qui elle aussi utilise à fond les possibilités de cette grande vitesse ferroviaire. Je passe, je n'en dirai rien. Deux mots de conclusion. Quand effectivement les acteurs territoriaux, politiques, touristiques de l'Espagne voient un monde qui s'écroule, parce qu'ils ont, l'été 2008, ils ont perdu 500 000 Allemands et Anglais de la middle class, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de venir, hein, enfin le crash de l'été 2008. Il y a ces grosses destinations comme Benidorm, comme Palma, qui ont ressenti cette baisse de la fréquentation. Voilà, les acteurs touristiques, le ministre, enfin, le secrétaire d'État, Meskida, il dit aux acteurs, aux hôteliers, surtout, surtout, ne baissez pas les prix. Quand vous voyez baisser le nombre de visiteurs, ne baissez pas les prix, c'est suicidaire. Suicidaire pour notre marché touristique, de se battre sur les prix. Il entend les prix des prestations en Espagne. Les prix des spas, les prix des paradors, les prix des hôtels. Quoi. Ça serait catastrophique, parce que c'est du moins 10 ans. On va s'aligner sur la Tunisie ou sur la Turquie, et on va là vers une course vers le bas qui peut nous faire perdre à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de visiteurs à long terme. Bien au contraire, il faut s'orienter vers une stratégie d'excellence, renforcer les investissements, parier sur la qualité. Alors quand il dit ça, on se dit, il tourne la page. Il tourne la page du tourisme de masse. Il tourne la page des macro-stations. Il est marqué par le spectre de la crise. Plein de questions se posent sur l'offre immobilière excessive, sur la désaffection des produits touristiques bon marché, sur la chute du pouvoir d'achat des classes populaires d'Europe du Nord. Et puis plein de questions se posent pour financer les programmes de rénovation de l'offre dans les secteurs de forte concentration touristique, c'est-à-dire la Costa del Sol. Mais il réagit bien en fonction de cette crise et en fonction des métamorphoses du tourisme. Quand il dit qualité, les gens pensent au paysage dont je viens de vous parler. Ils disent qualité, c'est vers ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut produire, continuer à produire mieux, produire plus. Évolution des stations littorales les plus anciennes vers des pôles urbains, offrant des services diversifiés, santé, éducation, tertiaire, administratif, et une vie culturelle à l'année. Ouvrir de nouveaux espaces touristiques, par exemple des routes culturelles sur l'intérieur. Grenade a ouvert son low cost, parce que Grenade, c'est vraiment une destination d'intérieur, d'arrière-pays par rapport à une côte touristique. Il y a plein de choses à dire sur le plan culturel, vous l'entendez bien. Et y accrocher un low cost et y accrocher des hôtels, c'est proposer une nouvelle offre touristique, complémentaire avec le littoral. Et puis s'appuyer sur nos grands opérateurs made in Spain, hôteliers, Besson Barcelo, NH, Salmelia, plutôt que de se laisser manger par Gérard Bremont, par exemple, et Pierre et Vacances, allez, les étrangers, quoi. Donc, j'en finis un petit peu avec ce monde de l'Espagne, et plus globalement, une conclusion plus générale sur les mobilités touristiques. J'ai voulu vous dire qu'il y avait bien cette évolution, me semble-t-il, des mobilités touristiques et des politiques de transport. J'ai voulu vous montrer qu'on était dans un moment nouveau dans lequel ces mutations sont en faisceau, il n'y a pas une seule, il y a une multiplicité de mutations en cours, avec une évolution de l'urbanisme et des infrastructures de transport, de nouveaux comportements du tourisme et des loisirs, des opérateurs privés et des acteurs territoriaux comme les municipalités qui font plein d'efforts. Que si on regarde sur le plus long terme, on voit que ça fait longtemps que ces évolutions ont lieu, que le tourisme n'est pas statique, qu'il aura connu des phases, qu'une phase fordiste vient peut-être de s'achever, mais qu'elle survivra encore, partiellement, laissant place néanmoins à l'émergence de nouveaux territoires, de nouveaux comportements et de nouvelles mobilités. Si je vous dis que ça subsiste, c'est parce que le charter va rester compétitif, en fait, sur les moyens courriers. Il va rester compétitif sur la mer Rouge, il va rester compétitif sur le sud de la Méditerranée. Au-delà de 2000 km, ça coûtera encore moins cher, hein, de regrouper les gens et de les mettre sur des guimbards, sur des avions, pour aller dans des macro-stations. Donc Sharm el-Sheikh ne va pas disparaître dans les années qui viennent. Mais par contre, ces destinations touristiques relativement proches des espaces émetteurs, comme l'Espagne, sont vraiment dans cette logique de diversification et de transformation. Et enfin, et j'insiste, pas de déterminisme, pas surévaluer le rôle de l'offre, mais comprendre quand même cette diffusion, cette transformation du tourisme à l'aune de certaines évolutions techniques. Voilà, et puis moi je crois au caractère fécond de cette crise touristique, de ce moment de mutation fondamentale, parce que cela offre des potentialités de restructuration et de redéveloppement. Ben, comme géographe, j'essaye de regarder à différentes échelles. Ça, c'est l'habitude de ma corporation. Je vous remercie.